Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui va consacrer une semaine au gouvernement secret, c'est-à-dire aux services de renseignement et à leur place dans nos démocraties, et qui commence ce soir avec Bertrand Warusfel. L'existence d'un gouvernement secret qui se nourrit d'informations confidentielles recueillies à l'insu de tous est une pratique très ancienne. Il suffit de songer dans notre patrimoine national à des figures comme Richelieu ou comme Fouché. Il n'empêche que cette pratique pose des difficultés particulières, surtout à un régime démocratique, parce que le régime démocratique est censé agir totalement sous le regard du public. Et d'ailleurs, on a vu dans nos démocraties progresser de manière absolument continue le thème de la transparence. Mais gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. La connaissance et l'anticipation ont été la préoccupation de tout pouvoir, de toute armée aussi, depuis l'aube de l'humanité. Le second plus vieux métier du monde, disent les gens du renseignement. Du sacrifice d'Iphigénie pour s'attirer des vents favorables jusqu'aux services de renseignement modernes et numériques, en passant par la divination, cette connaissance par anticipation, ou mieux, cette sécurisation de l'avenir a constitué une constante du pouvoir. La grande nouveauté de notre temps vient de ce que désormais les ordinateurs, le numérique, permet non seulement d'épier, d'écouter à distance, mais aussi d'intervenir, de fausser la connaissance de l'ennemi. On ne sera donc pas surpris d'apprendre que dans le domaine du renseignement aussi, se produit une révolution numérique qui est un changement de paradigme. Alors nous allons commencer cette semaine par un tour d'horizon. Des problèmes anciens, des enjeux nouveaux, des défis inédits qui traversent la communauté du renseignement à l'âge démocratique, pourrait-on dire. Et on le fera en compagnie d'un spécialiste de cette question, Bertrand Warusfel, qui est professeur à l'Université de Paris 8, qui est avocat également, et qui est vice-président de l'Association française de droit de la sécurité et de la défense. Bertrand Warusfel, bonsoir.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, le second plus vieux métier du monde, c'est une expression consacrée que j'ai lue sous votre plume, d'ailleurs je dois le confesser d'emblée. Un métier très ancien que celui du renseignement.
Oui, c'est une technique de pouvoir qui existe pratiquement depuis que les hommes font société. Le titulaire du pouvoir, quelle que soit la manière dont il est arrivé au pouvoir, quel que soit le cadre juridique dans lequel il exerce, a besoin de comprendre l'environnement dans lequel il est, notamment lorsque l'environnement est violent, ce qui a souvent été...
Ce qui est surtout le cas, oui, dans l'Antiquité, encore peut-être plus que maintenant.
Voilà, et également de savoir ce qu'il en est de la population ou du groupe qu'il dirige, ce qu'il en est éventuellement de ses rivaux, ce qu'il en est de ses soutiens. Hein, on dit toujours, garde-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Et donc, effectivement, c'est une pratique très ancienne, mais c'était une pratique qui restait une pratique essentiellement personnelle. Hein, il y a une formule que l'on connaît à propos des agents de renseignement qui travaillent pour le roi Louis XV au XVIIIe siècle, c'est le secret du roi. C'est le roi qui a ses hommes, de même que Richelieu avait ses religieux. Oui. Et ce qui est nouveau...
Ah oui, c'est les religieux qui faisaient travail pour Richelieu.
Tout à fait. Un certain nombre de capucins, de franciscains qui parcouraient le monde et lui ramenaient des informations. Ce qui a été nouveau à l'époque moderne, hein, et notamment à partir du 19e siècle, c'est que cette pratique s'est institutionnalisée, s'est organisée et s'est intégrée dans ce qui sont aujourd'hui les États-nations.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que le secret du roi allait de pair avec une majesté, la pompe royale, avec le double corps du roi, avec cette apparence d'un pouvoir qui était très éloigné de la réalité du renseignement. Et je me demande, Bertrand Warusfel, dans quelle mesure aujourd'hui, c'est pas le mouvement inverse. Avant, la majesté cachait le renseignement. Aujourd'hui, on assiste, c'est le modèle du renseignement qui s'est étendu au gouvernement rationnel. Un gouvernement sur des informations, un gouvernement par l'information, par la communication. Toute notre modernité est orientée là-dessus.
Certainement, la modernité, y compris la modernité démocratique, a mis l'information, l'échange, l'anticipation, la connaissance au cœur des processus de pouvoir, pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir social. Et donc, le renseignement est devenu une pratique très moderne, alors même qu'encore une fois, c'était une pratique très, très ancienne. Ça. Et le numérique vient aujourd'hui accroître l'importance de cette modernité du renseignement.
Et pourtant, il y a une relation ambivalente, conflictuelle entre le renseignement et la démocratie. C'est-à-dire qu'un gouvernement rationnel, c'est un gouvernement qui prélève des informations par la statistique, par ses l'INSEE, par aussi de manière beaucoup plus discrète, voire secrète. Donc, comment est-ce que des démocraties peuvent gérer l'asymétrie de l'information, pour le dire en termes économiques, d'un gouvernement qui, par certains côtés, a trop de transparence et pas de l'autre, n'a pas assez de transparence?
Alors, Antoine Garbeau, je pense que le qualificatif d'ambivalent que vous indiquez me semble tout à fait vrai. C'est-à-dire que, à la fois, on comprend bien que les logiques du renseignement sont quelque part assez frontalement divergente avec ce qui est un peu le cœur de la démocratie, c'est-à-dire la transparence, la délibération, l'échange. Le gouvernant qui est renseigné est effectivement en situation asymétrique par rapport au gouverné qui n'est pas renseigné. Et le gouvernant dit au gouverné, je sais des choses que vous ne savez pas, donc croyez-moi sur parole, acceptez la décision que je prends parce que je ne peux pas vous dire forcément pourquoi je la prends. Donc d'un côté, on a cette quasiment opposition. Et d'un autre côté, ce qui est très paradoxal, c'est que la démocratie, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, a besoin du renseignement pour différentes raisons. D'abord, la démocratie fragile.
Oui,
et elle a besoin de se protéger.
C'est ça. Mais Bertrand Varusfeld, avant d'arriver à la fragilité de la démocratie, je voudrais prendre un exemple très concret que nous avons vécu d'ailleurs peut-être au moment du déclenchement de la guerre au Mali. Comment est-ce qu'un gouvernant peut-il dire à son peuple, on va partir en guerre, je peux pas vous dire pourquoi, c'est parce que j'ai des informations qui disent que les djihadistes sont au port de Bamako et que ça va être une catastrophe à tous égards. Donc, il faut rendre des comptes, et la guerre est une très grande consommatrice de renseignements d'ailleurs.
Bien sûr. Alors, le cas de l'entrée de la France au Mali est un exemple de quelque chose d'assez neuf. Traditionnellement, ce que j'indiquais, le gouvernant n'indiquait pas qu'il prenait sa décision sur la base du renseignement.
Ah oui,
il restait assez généraliste, il y avait même un déni. Oui. On sait très bien que le général de Gaulle ne s'intéressait pas beaucoup au renseignement et faisait mine de considérer ça comme très subalterne.
Il a une réaction, le général de Gaulle, avec l'affaire Benmarca.
En 66. Dans sa conférence de presse de février 70, il dit il n'y a rien là-dedans que de vulgaire et de subalterne. Ce qui montre qu'il dénie l'importance du renseignement. Dans le cas de la guerre au Mali, et c'est intéressant parce que c'est un peu un changement de paradigme, le président Hollande et ses ministres disent assez rapidement, sans évidemment donner des informations classifiées, disent, nous sommes intervenus hier, nous sommes intervenus avant-hier, parce qu'ils le disent très vite, parce que nos services de renseignement militaire ont obtenu des informations comme quoi une colonne de véhicules djihadistes, enfin de véhicules des rebelles Touareg, était en route pour descendre sur Bamako, il fallait intervenir. C'est-à-dire que là, on est dans un cas où le politique accepte de dire que sa décision est fondée sur le renseignement. Alors, bien sûr, c'est pas la transparence.
C'est une forme de transparence.
C'est pas complètement la transparence, puisqu'il ne dit pas, il ne dit pas voici les photos, il ne donne pas accès aux données qui nous permettraient de voir si c'est vrai et si la réponse qu'apporte le gouvernement est appropriée à la menace. Mais par contre, il assume déjà, ce qui est un grand point, le fait que le renseignement rentre dans son algorithme de décision.
Bertrand Varusfeld, vous dites il ne montre pas les photos. Quand Colin Powell montre les photos au Conseil de sécurité, c'est absolument dévastateur pour le renseignement, c'est dévastateur pour le gouvernement Bush d'ailleurs aussi, et puis pas uniquement, mais parce que ce sont des photos bidonnées et que c'est une fausse transparence. Il n'y a rien de pire que la fausse transparence.
C'est vrai. Mais, je veux dire... Prendre le risque de la transparence, c'est prendre le risque de la fausse transparence.
Mais oui,
faut-il mieux rester dans le déni total, ce qui a été la position française sous la Ve République pendant très longtemps? On ne parle pas de ces choses-là. Ces choses-là ne sont pas censées exister. Vous savez qu'elles existent, mais je n'en parlerai jamais. Moi, je suis plutôt pour dire, jouons le maximum de transparence que l'on peut mener dans ces affaires, qui est forcément limité, en s'exposant, le cas échéant, à la fausse transparence. Mais dans l'exemple que vous donnez sur Colin Powell, c'est un bon exemple parce que une fois que les photos ont été montrées, un certain nombre de gens ont travaillé, les organisations internationales se sont prononcées, des pays se sont exprimés et finalement, tout le monde a su que ces photos étaient bidonnées.
Mais Bertrand Varusfeld, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur de droit, mais que sauf erreur, vous avez fait une thèse d'histoire sur l'histoire du renseignement et la 5e République, que sauf erreur de ma part, suit la 4e. À la 4e, il y a eu des scandales.
Antoine Garapon, vous me faites beaucoup d'honneur, mais il faut que je le rende à César ce qui est à César. J'ai fait une thèse de droit dans laquelle il y avait beaucoup d'histoire.
Voilà, parce que
j'ai fait
d'accord.
Une thèse sur le secret de la défense nationale et il fallait aller chercher assez en arrière les origines de ces disputes.
Et l'origine du désamour des parlementaires de la 4e à l'égard des services de renseignement.
On a été, déjà sous la 3e, ça commence avec l'affaire Dreyfus, on a été beaucoup, je le disais, dans le déni et on a été beaucoup... Dans la situation où donc les politiques n'osaient pas assumer leur relation au renseignement.
On préfère ne pas le savoir.
On préfère ne pas le savoir. Et à ce moment-là, la seule manière dont le renseignement s'inscrit dans l'actualité, c'est le scandale. C'est-à-dire comme toute activité a des dérives, toute activité a des dysfonctionnements, à ce moment-là, le dysfonctionnement arrive à la surface et à ce moment-là, le scandale éclate. Le dernier grand dysfonctionnement, le dernier grand scandale qui marque sans doute la fin du déni, c'est l'affaire du Rainbow Warrior, où les décideurs politiques les plus élevés en France, y compris le président de la République, font comme si cela n'avait pas été, comme si les ordres n'avaient pas été donnés, comme s'il n'y avait pas eu de connaissance, ce qu'évidemment personne ne croit, voire même monte un pseudo-rapport demandé à un très haut personnage de l'État pour accréditer une fausse vérité.
Et qui disqualifie le gouvernement. Et d'ailleurs, je parle sous votre contrôle, on a appris post-mortem que le ministre de la Défense était peut-être un agent soviétique. Ou qu'il avait des... Voilà. Donc, ça montre la complexité du déni et l'impossibilité du fait de l'assumer en toute transparence. Mais vous disiez, alors je vous ai interrompu, Bertrand Varusfeld, qu'il y a un paradoxe, c'est que les démocraties qui sont particulièrement fragiles, ça on le sait, ont besoin du renseignement, peut-être plus qu'un régime de manière très très contre-intuitive, tout autant, voire plus qu'un régime autoritaire.
Les démocraties se savent fragiles. Et comme elles se savent fragiles, elles ont besoin du renseignement. Elles ont besoin du renseignement d'abord à l'extérieur pour voir venir éventuellement la guerre, le conflit, et également aussi à l'intérieur parce que la démocratie vit toujours dans la hantise de la subversion, hein, dans la hantise de l'atteinte aux institutions de la République, par exemple. Hein. Le général de Gaulle avait vu mai 40 et avait vu la déroute de l'État républicain.
Hein,
et
oui,
s'il avait inscrit l'article 16 dans la Constitution de 58, c'est pour qu'il y ait un moyen pour empêcher la dérive de l'institution républicaine. Donc le renseignement apparaît comme un moyen pour la démocratie, voire même comme un moyen particulièrement utile parce que la démocratie a une difficulté de l'usage à la force. La démocratie voudrait se défendre et voudrait gagner sans avoir à se battre. Et elle croit, c'est une utopie extrêmement compréhensible et tout à fait généreuse, même si ça reste quand même en partie une utopie, que le renseignement pourrait être peut-être le moyen de se défendre et de gagner sans combattre. Vous savez, on parle toujours de Sun Tzu qui dit si vous avez de bons espions, vous n'aurez pas besoin de vous battre. La démocratie pense que ça lui évitera de se battre. Actuellement, où la démocratie se sent en guerre contre l'islamisme radical, par exemple, chose qu'on peut discuter et contester, notamment d'un point de vue juridique, la démocratie se dit, si jamais j'avais des services de renseignement qui arrivaient à détecter les actions terroristes avant qu'elles se produisent, eh bien, je gagnerais ce combat contre la barbarie et contre l'obscurantisme sans avoir à violer les règles de la démocratie.
Mais alors, comment expliquez-vous, Bertrand Varusfeld, ce paradoxe, qui pour moi est un paradoxe, que un exemple, peut-être le pays qui a inventé la démocratie parlementaire, je vais bien sûr parler de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, et également le pays qui a inventé les services de renseignement, c'est le pays de l'intelligence, d'ailleurs le mot des services d'intelligence, c'est une expression anglaise, c'est-à-dire en fait la compréhension de l'autre, la compréhension des ennemis, quels qu'ils soient d'ailleurs, des ennemis extérieurs comme des ennemis intérieurs.
Tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il faut chercher très profondément des raisons. Je pense que c'est aussi un petit peu le résultat de l'histoire et des accidents de l'histoire. mais un pays qui est une île, un pays qui veut avoir une vocation mondiale, un pays de marins et de marchands, est un pays qui connaît la valeur de l'information, qui connaît la nécessité de concentrer l'information pour en tirer des décisions stratégiques, et un pays qui a su, effectivement, comme vous le dites, mobiliser ses intelligences au profit du renseignement. Quand on pense que, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a demandé à Alan Turing, le génial mathématicien, de venir apporter une aide ô combien importante au renseignement britannique.
Et qu'il a réussi, qu'il a apporté, effectivement.
Il l'a tellement bien apporté qu'il a inventé l'ordinateur. De ce fait,
oui.
Ça montre bien que dans le modèle anglo-saxon et notamment britannique, l'intelligence, le renseignement est au cœur de la pratique de la société et de la défense de la société.
Alors, l'affaire Turing montre d'ailleurs autre chose d'extrêmement intéressant, c'est la férocité avec laquelle les Britanniques ont tenu leur secret. Parce que il n'en a tiré aucune gloire, alors que le Winston Churchill lui écrit pour lui dire qu'il a fait gagner 2 ans de guerre à l'Occident, excusez du peu. Il a un poste relativement modeste à Manchester. Il est pris dans une affaire qui nous paraît absolument ridicule aujourd'hui d'homosexualité. Et il va se suicider du fait d'une condamnation à la camisole médicamenteuse que lui impose le juge. Il n'est à aucun moment sauvé par l'État et par le gouvernement britannique. C'est saisissant.
Oui, alors, je parlais de déni. Les Britanniques ont ceci de tout à fait curieux dans leur système, c'est qu'ils ont cultivé le déni tout en misant énormément sur le renseignement. Alors que nous, en France, on a cultivé le déni du renseignement tout en accordant, pendant longtemps, peu de crédit au renseignement. C'est la différence.
Expliquez-nous ça, c'est-à-dire que les Français ne croient pas.
Le no comment britannique, ouais. Ça veut dire ces choses-là sont trop importantes pour qu'on puisse en parler, parce qu'elles vont révéler le cœur du pouvoir. Je ne parlerai jamais de ce qu'a fait Turing, je ne parlerai jamais de ce qu'on a fait à Bletchley Park, parce que c'est trop important. Il ne faut pas que nos adversaires sachent que nous avons les moyens d'écouter les communications. En France, le déni, ça a été autre chose. C'est le renseignement est une affaire sale, une affaire que l'on voudrait ne pas avoir
vulgaire
à mener.
Et subalterne.
Vulgaire et subalterne, disait De Gaulle. Donc, je ne veux pas reconnaître qu'en réalité, j'en ai quand même besoin et que de temps en temps, et que le matin, on m'amène quand même une fiche de renseignement que je lis pendant que je prends mon café avant d'aller en réunion. C'est toute la différence, hein.
Alors, il y a aussi un autre grand pays. Il y a beaucoup de grands pays de renseignement, comme vous le disiez, Bertrand Varusfeld, à l'instant. Mais, on constate aujourd'hui quelque chose sur les États-Unis. Et après, on constate que les États-Unis, un phénomène très très bizarre dans la mésentente, pour parler pudiquement, entre l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, et la CIA, où on a l'impression que ce sont les services de renseignement qui maintiennent en quelque sorte l'intérêt général, les intérêts fondamentaux des États-Unis contre leur président.
Alors tout à fait, Antoine Garapon, je partage absolument la même impression que vous. On a des déclarations assez nettes de responsables américains du renseignement qui, quelque part, se présentent comme étant, quelque part, les garants de l'intérêt général. Et je pense que c'est quelque chose qui peut arriver dans des démocraties dans lesquelles le renseignement s'est acculturé. Et je pense, pour être positif, que ce phénomène est en train de se produire en France. C'est-à-dire que nous sommes sortis du déni depuis maintenant une trentaine d'années. Le renseignement commence à s'institutionnaliser en France. Depuis la loi de 2015,
Quand vous expliquez ça? Est-ce que les affaires de terrorisme, qui ont quand même choqué la population, est-ce qu'elles n'ont ça pas été un accélérateur de cette reconnaissance?
Sûrement. En fait, beaucoup de choses se passent dans les années 80, hein. Mmh. À la fois ce dernier déni du Rainbow Warrior, mmh, qui est tout à fait, qui fait prendre conscience à tout le monde qu'on est allé trop loin, qui est ridicule et qu'il faut qu'on en sorte.
Ça.
D'un autre côté, effectivement, le développement dans la même décennie de formes de terrorisme déjà très important. Rappelons-nous les attentats de la rue Reine, de Port-Royal, etc. Et le renseignement intérieur, en l'occurrence la direction de la surveillance du territoire, qui arrive à mettre à jour les réseaux en question. Et à ce moment-là, la population commence à voir que le renseignement peut avoir une influence, et une influence positive, sur la prise en compte d'un certain nombre de menaces à la démocratie. Là-dessus, derrière, se produisent également, j'allais dire, des initiatives de personnes. Je pense par exemple à quelqu'un dont on parle peu, mais qu'il faut saluer, qui a été le préfet Potra, qui a été dans les années 80 l'un des directeurs de la DST et qui est dans les années 90 le responsable des questions de sécurité au cabinet de Rocard, et qui aura l'intelligence de faire évoluer sur plusieurs plans, y compris sur le plan juridique, l'encadrement juridique du renseignement. Donc on rentre dans un processus dans lequel le renseignement va être reconnu politiquement et publiquement. Et donc la société, notamment la société civile, commence à admettre l'idée que son État utilise le renseignement, mais que ce renseignement doit être consacré au bien public et au bien commun. Et de ce point de vue-là, comme aux États-Unis, on peut imaginer qu'il y a dans les services de renseignement une exigence de servir les institutions républicaines.
Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui, comme tous les soirs, je crois, vous impose la même frustration d'entendre de la musique aussi belle et aussi entraînante. Et pour, il faut bien l'interrompre pour reprendre notre discussion avec Bertrand Warusfeld, où nous parlons du renseignement et de l'accommodation du renseignement et de la démocratie. Alors, Bertrand Warusfeld, comment est-ce que on va pouvoir organiser ce mariage de l'eau et du feu, du secret et de la transparence, du renseignement et de l'action formelle? Parce que le renseignement, le secret du roi, au départ, ce sont des gens qui sont très proches du souverain, ce sont des missi dominici, ce sont les capucins de Richelieu, les rapports sont totalement informels.
Complètement, Antoine Garapon. Je pense que ça a commencé, les historiens nous disent que ça a commencé par un phénomène qu'on peut appeler de bureaucratisation. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, les services de renseignement se sont organisés comme des entités de l'administration. Ça n'a l'air de rien, mais dans un pays très administratif comme la France notamment, ça veut dire qu'à partir de la fin du 19e siècle, vous avez une entité administrative qui existe sur le bottin administratif, vous avez des chefs de service, vous avez des fonctionnaires qui sont affectés, vous avez des règles de fonctionnement interne, certaines ne sont pas publiées. Et déjà, on s'écarte un petit peu du modèle de la relation purement personnelle. Ce n'est plus le secret d'un dirigeant, ce sont des fonctionnaires, des agents publics qui travaillent pour l'État. Après, il y a le problème, on l'évoquait tout à l'heure, de la reconnaissance. Au début, leur travail est complètement secret. Attendez, ensuite, la reconnaissance va venir.
Alors, avant de passer à la reconnaissance, vous êtes juriste. Ces décrets-là, on les connaît. D'abord, est-ce que ces services portent leur nom véritable? Est-ce qu'il ne s'agit pas du service de documentation de l'école de la marine, quelque chose de très, très obscur?
À l'époque de l'affaire Dreyfus, le service de renseignement de l'armée, le service extérieur, s'appelle la section de statistiques. Et c'est évidemment un terme qui dissimule la véritable activité.
Après, encore qu'entre la statistique et le renseignement, il y a beaucoup de liens.
Il y a des liens. Et après, pour aller dans votre sens, le service de renseignement qui survit après l'affaire Dreyfus jusqu'en 1940 ne s'appelle pas. En fait, on l'appelle dans le jargon administratif qui aime bien les sigles, le SR-SCR, service de renseignement, service de centralisation du renseignement, mais c'est juste un acronyme.
On ne le développe pas.
Ouais. En revanche, à partir de 1945, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, on nomme les services direction de la surveillance du territoire, direction des SDEC, service de documentation extérieure, qui est une formule transparente pour dire espionnage, service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Mais vous avez raison, les décrets sont signés, les décrets ont une existence juridique, mais ils ne sont pas publiés au journal officiel. Il faudra attendre l'arrivée de la gauche au pouvoir en 80 pour que les décrets soient publiés.
Je pense à un autre exemple en droit français qui était les décrets qui organisaient l'objection de conscience et qui étaient des décrets qui donnaient un droit aux gens d'être objecteurs, mais qui n'étaient pas publiés. Mais ce qui est intéressant quand même dans cette histoire, Bertrand Warusfeld, c'est que ces décrets sont faits pour qui? Ils sont faits pour les gens qui vont travailler dans ces services. Ils sont faits pour organiser. Parce que la première chose pour instituer, il faut donner une existence administrative. Et c'est ça qui est important dans les décrets.
Exactement. C'est à la fois administratif et en même temps symbolique. Ça veut dire, je dis souvent, un terme qui fait parfois un petit peu hurler les professionnels, on rentre dans un processus de banalisation. Non pas au sens où ceci n'a aucun intérêt, mais au sens où ça devient une activité publique parmi d'autres activités publiques et qui suit les mécanismes de l'activité publique.
Oui, alors la gauche et Mitterrand, qui va jouer un grand rôle dans tout ça. Mitterrand va être un grand président de service. Il n'y a pas que la malheureuse affaire Rainbow Warrior, il y a aussi l'affaire Farewell qui va avoir une importance déterminante dans les rapports atlantiques entre la France et les États-Unis. En un mot, l'affaire Farewell.
Oui, alors c'est une affaire dans laquelle la DST qui avait essayé de recruter sans y arriver dans les années 60 un diplomate espion soviétique en poste à Paris est recontacté par cet officier de renseignement qui leur livre plusieurs milliers de pages sur les synthèses de renseignement du KGB. Et effectivement, c'est cette affaire un peu inespérée, mais qu'il a fallu mener à bien dans des circonstances très difficiles, en manipulant à distance, en manipulant cette personne à Moscou même, en récupérant les documents à Moscou, ce qui était évidemment extrêmement dangereux. D'ailleurs, Vetrov, le colonel Vetrov, qui a payé de sa vie, va permettre, d'une part, au gouvernement socialiste en 81, de montrer aux États-Unis qu'ils ne sont pas, j'allais dire, sous l'influence du Parti communiste.
Et des quatre ministres communistes qui sont au gouvernement.
Donc ça, c'était une première chose. Et deuxièmement, vont servir au camp occidental, hein, et notamment aux Américains et à leurs alliés, à monter la manipulation. De la guerre des affaires, si j'ose dire, la guerre technologique à l'URSS, parce que les documents de Farewell ont révélé le besoin désespéré des soviétiques d'essayer de rattraper la technologie occidentale. Et du même coup, lorsque l'affaire Farewell sera révélée à la fin des années 80, c'est un élément de plus qui apporte de la considération au renseignement. Parce que voilà un exemple où on peut dire qu'une activité extrêmement secrète du renseignement français a contribué finalement à la paix internationale.
Ben oui, à la fin de la guerre froide.
À la fin de la guerre froide. Oui. Et ceci redore le blason et donne à penser qu'effectivement, un service de renseignement peut être un appui, un apport dans une conception démocratique du pouvoir et dans une gestion démocratique des relations internationales.
C'est ça. Mais alors ça, c'est très important parce que c'est le début de l'apparition dans le débat public d'un renseignement vertueux, quoi, d'un renseignement qui peut servir la démocratie et qui peut servir la paix.
Je dirais, en simplifiant un peu les choses, que à partir des années 90, et notamment, je le disais, les initiatives qu'a pris le préfet Potras sous le gouvernement de Rocard, et tout ce qu'a suivi, ce qu'on a appelé parfois le printemps français du renseignement, il y a une espèce de deal, finalement, qui s'établit entre la démocratie et le renseignement. Si vous voulez cesser d'être considéré comme ayant une activité honteuse, acceptez de reconnaître que vous travaillez pour la démocratie, que vous travaillez pour les institutions de la République et que vous respecterez les libertés fondamentales et le droit. Si vous acceptez cette prééminence du droit et de la démocratie, à ce moment-là, en contrepartie, le système politique, le système juridique et la société civile vous reconnaîtra comme faisant partie de plein exercice du service de l'État, du service public.
Mais ce que vous dites là, Bertrand Warusfeld, c'est le mécanisme politique fondamentale au sens premier du terme, c'est-à-dire qui fonde une communauté politique, qui est celui de la reconnaissance mutuelle. On vous reconnaît et vous nous reconnaissez, même si cette reconnaissance est fondée sur une part d'ombre qui est irréductible, mais qu'on va retrouver dans le terrorisme. Je suis très frappé d'avoir vu après les attentats de 2015 des journaux comme Libération, qui sont pas connus pour leur grande appétence pour les services secrets, en parler beaucoup plus sereinement et même parfois d'ailleurs réclamer du renseignement de qualité. C'est tout à fait surprenant. Mais le troisième étage après l'institutionnalisation, après la reconnaissance mutuelle, Bertrand Warusfeld, c'est le contrôle. Comment est-ce qu'on va pouvoir contrôler une activité qui ne dit pas tout ce qu'elle fait?
évidemment, vous connaissez l'adage, hein, la confiance n'exclut pas le contrôle. Sous-entendu, la confiance exige le contrôle. La confiance dans des dispositifs qui sont par nature secrets, donc par nature opaques, nécessite d'avoir un contrôle extraordinaire, c'est-à-dire un contrôle différent et sans doute plus fort que le contrôle qu'on exerce en droit commun sur des institutions administratives classiques. Et ça, c'est le dernier étage de la fusée, c'est le plus récent. Ça a commencé un tout petit peu dans les années 90 avec la loi de 91 sur les écoutes, sur les interceptions, qui a réglementé et contrôlé une petite partie de l'activité des services de renseignement. Mais c'est surtout le gap des lois de 2015, qui ont été préparées sous l'influence de M. Urvoas, président de la commission des lois et ensuite garde des Sceaux, qui ont amené enfin la France dans le périmètre des grandes démocraties, qui ont toutes créé un droit du renseignement, une loi du renseignement qui à la fois légitime l'activité de renseignement et en même temps instaure des contrôles indépendants en France avec
on va parler du contrôle tout de suite. On va parler tout de suite du contrôle, surtout que mon petit doigt m'a dit que vous n'aviez pas été complètement étranger à la rédaction de ces lois et à donner des idées de ce contrôle. Mais avant, un mot quand même sur le contrôle parlementaire. Parce que ce que font toutes les démocraties, ce qu'a fait la commission Church aux États-Unis après le fameux article de Seymour Hersh dans le New York Times où il révèle qu'en réalité la CIA ne fait pas que lutter contre les ennemis extérieurs des États-Unis mais qu'elle contrôle aussi l'hostilité à la guerre au Vietnam et Tully, commission Church et commission parlementaire. On n'a pas tellement cette tradition de la commission parlementaire, surtout que celle qu'on a eue était un peu bidonnée, comme vous le rappeliez.
Alors effectivement, c'est une lapalissade de dire que le Parlement ne joue pas sous la Ve République le même rôle que joue le Parlement dans d'autres régimes parlementaires, voire dans un régime présidentiel comme les États-Unis. Et en plus, tous ceux qui sont intéressés à ce sujet le savent, il y a encore moins de 20 ans, les parlementaires français, qui par exemple travaillaient à la commission de la défense ou à la commission des affaires étrangères, étaient peu partants pour participer à un contrôle parlementaire
Pourquoi
de renseignement. Parce qu'ils considéraient que faire le contrôle du renseignement voulait dire rentrer dans la sphère du secret et qu'un homme politique est un homme qui doit pouvoir rendre compte à ses électeurs, qui doit pouvoir publier sur son site internet ou dans son journal les interventions qu'il a fait et que ne pas pouvoir parler à l'électeur de ce sur quoi il travaille était finalement antinomique. Et il a fallu vaincre cette réserve-là. C'est sous le quinquennat de Sarkozy qu'a été monté le début du contrôle parlementaire, ce qu'on appelait la délégation parlementaire en renseignement, qui à l'époque avait des moyens extrêmement faibles, mais un cap symbolique était passé. Et depuis la loi de programmation militaire et la loi de 2015, nous avons un contrôle parlementaire qui s'enrichit peu à peu, mais qui reste cantonné à l'organisation générale et aux moyens généraux des services, sans rentrer dans le contenu des opérations. Le Conseil constitutionnel nous ayant dit en 2000 que le Parlement ne pouvait pas s'immiscer dans la gestion des affaires en cours, des opérations en cours.
Mais Jean-Jacques Urvoas a été un pionnier d'ailleurs, il faut le signaler, dans le travail du contrôle parlementaire sur le renseignement. Il a été absolument pionnier et d'ailleurs il y a eu cette loi de 2015 qui marque véritablement un tournant, Bertrand Warusfel.
Complètement, hein, complètement. La loi de 2015, c'est une loi qui légitime l'activité du renseignement, qui le reconnaît comme politique publique, mais qui en même temps lui fixe des objectifs. Et donc, vous le savez, tous les juristes le savent, quand on fixe un objectif, on fixe aussi la limite. Ça veut dire que vous n'êtes pas légitime à aller au-delà ou en deçà de ça. Et qui introduit trois mécanismes de contrôle. Un premier mécanisme qui est un contrôle hiérarchique, qui est que toutes les techniques de renseignement intrusives dans la vie privée des gens doivent être décidées
par décision attentatoire.
Exactement, par décision individuelle du Premier ministre. Donc contrôle hiérarchique, il faut que la décision remonte toute la chaîne. Deuxièmement, contrôle indépendant par une commission de contrôle indépendante, une autorité administrative indépendante.
Sur les techniques de renseignement.
Sur les techniques de renseignement.
Ça, c'est quand même intéressant.
Et troisièmement, pour la première fois dans le droit français, une formation spécialisée du Conseil d'État qui peut être saisie par n'importe quel citoyen pour vérifier si une technique a été légalement ou pas mise en œuvre. Et cette formation spécialisée du Conseil d'État a accès aux documents secret défense. On ne peut pas lui opposer le secret défense, alors que vous savez très bien, puisque vous êtes magistrat, que tous les magistrats de France se voient en permanence opposer le secret défense.
Et que qui s'est singulièrement élargi, d'ailleurs,
En matière de technique de renseignement, la formation spéciale du Conseil d'État ne peut pas se voir opposer le secret défense. Et c'est donc un pas à la fois très important sur le plan juridique et très symbolique.
Et dans la pratique, Bertrand Warusfel, ça donne quoi ?
Ben, nous sommes au début de la
oui,
pratique.
Oui, mais est-ce qu'il y a nous déjà des bonnes pratiques qui...
Je pense qu'il y a des bonnes pratiques qui s'instaurent. Nous n'avons pas encore de contentieux très, très important devant le Conseil d'État. Hein. Ça sera sans doute un petit peu, j'allais dire, à ce moment-là qu'on verra si le système résiste. La commission de contrôle fait un travail, publie des rapports relativement intéressants. Le volume de demandes d'autorisation est très important, hein, plusieurs dizaines de milliers par an, hein, ce qui montre que...
Donc elle travaille, cette commission.
La commission travaille beaucoup, les services aussi. On est en phase de rodage, en phase de rodage, et on aura sans doute une phase d'adaptation de la loi, mais la fusée est partie.
D'accord. Alors, la fusée est partie, mais elle rencontre un nuage qu'elle n'avait pas prévu, que personne n'avait prévu, à vrai dire, qui est celui du numérique, le cloud. Elle rencontre une technique qui va changer totalement la donne, parce que on peut faire du renseignement par la technique. Le renseignement humain perd sa place, je parle sous votre contrôle, perd sa place de moyen privilégié d'obtenir des informations. Et il y a cet investissement massif, notamment des Américains, qui vont entraîner d'ailleurs les autres dans un investissement massif dans la technique. Et la technique, ça se contrôle différemment.
Tout à fait. On assiste à une attraction assez irrésistible vers le renseignement technique, et notamment vers le renseignement numérique, qui est poussé à la fois par ce qui se passe chez nos autres alliés, également par ce que propose l'industrie, parce que l'industrie propose des outils.
Et l'industrie française est assez florissante dans ce domaine-là.
Tout à fait. Et également par le primat donné aujourd'hui, pour des raisons qu'on comprend, mais qui est un primat difficile à gérer, du contre-terrorisme. Parce que le contre-terrorisme, c'est détecter pratiquement en temps réel la menace, et les moyens humains n'étant pas suffisants pour surveiller toutes les personnes potentiellement suspectes, il y a, j'allais dire, l'utopie qu'un système électronique permettrait éventuellement de surveiller tous les suspects. Donc il y a un espèce de couple un peu terrible, hein, du contre-terrorisme et du renseignement technique, avec effectivement un risque très important que les mécanismes de contrôle que nous venons de mettre en place puissent être dépassés par la rapidité de la technique et par l'opacité de la technique. Parce que vous savez aussi bien que moi que la technique numérique est une technique très difficile à percer. Il faut pouvoir descendre très profondément. Et une des questions, par exemple, que moi, en tant qu'observateur bienveillant du système de contrôle, je pose à la commission de contrôle, c'est avez-vous et aurez-vous les moyens humains, les moyens techniques, les moyens méthodologiques pour contrôler cette montée dans le renseignement numérique? Et je n'ai pas la réponse, et nous n'avons pas la réponse, c'est une interrogation pour la démocratie.
Mais personne, Bertrand Varusfeld, a la réponse, parce que c'est les moyens épistémologiques, on peut dire de manière un peu pédante. Ça veut dire que on ne sait pas encore aujourd'hui, personne ne sait comment contrôler les algorithmes, comment contrôler les faiseurs d'algorithmes, et ça va plus loin, parce que certains disent, quoi, on peut lire, c'est à mon avis une utopie en très grande partie, mais dire, ce sont les machines qui vont contrôler les machines, qui vont rectifier le tir à chaque fois, qui vont améliorer, ça va devenir un processus entièrement autonome, ce qui est le contraire même de la démocratie, d'ailleurs.
Ce que vous venez de dire, moi j'ai entendu Patrick Calvar, alors directeur de la DGSI, homme de renseignement extrêmement émérite, le dire il y a 2 ans à un colloque sur le contrôle du renseignement. Peut-être que seules les machines contrôlent les machines. Je suis un lecteur et un admirateur de Jacques Ellul. Je pense que les machines n'arriveront jamais à contrôler les machines. C'est clair. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette angoisse que nous pouvons avoir et cette interrogation très fondamentale que nous pouvons avoir sur la manière de contrôler la technologie numérique rejoint les interrogations que nous avons de manière générale sur la manière de contrôler les technologies juridiques dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie juridique. Hein, vous avez écrit un livre sur la justice digitale, vous le savez encore mieux que moi. Finalement, là aussi, c'est de la banalisation. Le renseignement rencontre, face à la révolution numérique, le même type d'interrogation, même si dans un contexte spécial, que rencontre la CNIL quand elle doit appliquer le RGPD, que rencontre les institutions de l'État lorsqu'ils doivent se numériser et qui se posent des questions sur la neutralité des algorithmes. D'une certaine manière, le renseignement, qui est une partie très particulière de l'action publique, se retrouve dans un mouvement très général, et donc on peut espérer que les solutions qui vaudront pour les uns vaudront pour les autres.
Alors, il y a un problème que l'on se pose, que la puissance publique se pose avec le numérique, c'est que les créateurs du numérique, et c'est peut-être une différence, là je parle sous votre contrôle, les créateurs du numérique sont des personnes privées. Si je prends l'exemple de la guerre de Syrie, là, c'est une guerre qui est incroyablement documentée, il y a des millions, plus d'un million de vidéos qui ont été faites par des militants, il y a des tas de choses qui sont toutes passées par Facebook, qui fait qu'aujourd'hui, le renseignement sur la guerre de Syrie est détenu par des puissances privées qui s'appellent Google, qui s'appellent Facebook. Et donc, est-ce que ma question est double. Est-ce que d'une part, nous n'assistons pas à un renseignement qui est d'abord fait en première ligne par des puissances non étatiques? C'est l'affaire de la NSC américaine et l'affaire Snowden qui a révélé au grand jour cette difficulté que moi je considère comme étant extrêmement préoccupante pour la démocratie. Puis deuxièmement, mais on en parlera ensuite, c'est celle du renseignement économique. C'est-à-dire que la conséquence de cette privatisation des moyens, des techniques de renseignement va reporter l'attention des services de renseignement et des pouvoirs sur le secteur économique autant, voire plus que sur la stratégie géopolitique traditionnelle.
Oui, je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, mais qui là encore n'est pas spécifique au renseignement, que l'on voit dans plusieurs domaines.
Absolument.
C'est le fait qu'aujourd'hui le pouvoir est autant dans l'économie et dans la société que simplement dans les institutions de l'État. C'est une évolution qu'on la craigne ou qu'on la souhaite, et que donc le renseignement n'y échappe pas complètement. Le renseignement ne peut pas travailler tout seul. Je crois qu'à la fois il est indispensable de rappeler que le renseignement d'État a des spécificités juridiques, politiques. D'ailleurs, la loi de 2015 dit que le renseignement, je dirais, de sécurité nationale est de la responsabilité exclusive de l'État. Je pense que c'est important de l'affirmer. Après, ce renseignement ne peut fonctionner que s'il intervient et il met en œuvre des partenariats publics-privés de toutes sortes de natures. En matière de sécurité publique en général, en matière de prévention de la délinquance, etc., nous sommes déjà habitués à cela. Et donc là encore, cette nécessité de mêler non pas l'eau et le feu, mais de mêler le public et le privé, mais sous l'égide de règles d'intérêt général, de règles d'intérêt public qui doivent être votées par le Parlement et contrôlées par des juridictions indépendantes, on le connaît dans d'autres domaines. Et donc, nous le connaîtrons également dans le renseignement, parce que le renseignement n'est plus dans une tour d'ivoire. Le renseignement est, j'allais dire, sur le terrain de la vie sociale, comme les autres composantes de l'action publique.
Ça veut dire qu'il y a énormément d'agents de renseignement qui peut-être ne le savent pas, c'est-à-dire qui ne se vivent pas même comme des agents de renseignement. Est-ce que ça veut pas dire qu'il y a une réticularisation de du renseignement?
Je crois qu'il faut distinguer dans le renseignement la collecte et l'exploitation. Une information ne devient du renseignement que lorsqu'elle est exploitée. Bien évidemment, la collecte de l'information, c'est un art que nous pratiquons tous. Vous, Antoine Garapon, moi, Bertrand Varusfel, France Culture, tout le monde pratique la collecte du renseignement, notamment avec les outils numériques. Donc de l'information est disponible partout.
Nous sommes tous des agents indirects de
sans le savoir. En revanche, nous ne pratiquons pas le renseignement parce que nous ne l'exploitons pas à des fins stratégiques. Et cela, ça doit rester le monopole d'un certain nombre de structures qui ont une légitimité politique et juridique pour le faire.
Alors, ça veut dire que une mutation à peine la démocratie trouve-t-elle ses repères avec le renseignement, avec ses phases, notamment celle du contrôle, qu'elle est sujette à de nouveaux défis. Comment Bertrand Varusfel, vous qui êtes un spécialiste de ces questions, comment vous voyez l'avenir démocratique du renseignement contemporain?
Je ne le vois pas comme tout le monde. C'est plus facile de prédire le passé que l'avenir. Ce que j'espère, c'est qu'effectivement, nous trouvions d'une part dans l'État des carrières pour les hommes du renseignement qui soient des vraies carrières d'agents publics, qui soient à la fois utiles, intéressantes, respectées, que le décideur politique sache expliquer le bon usage qu'il fait du renseignement tout en respectant le nécessaire secret défense, et que la société, j'allais dire, sorte des fantasmes et du complotisme pour avoir un regard lucide et donc un regard exigeant sur le renseignement dont elle a besoin à partir du moment où il respecte les valeurs démocratiques.
Et ben voilà, tout un programme. Merci en tous les cas. Merci Bertrand Varusfel.
Merci Antoine Garapon et bonsoir.
Matière à penser, Bertrand Varusfel, Colin Gruel, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et je vous donne rendez-vous demain avec Bernard Bagelet, ancien directeur général de la DGSE. À demain.